Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Bienvenue sur la Wikiradio du CNRS. Aujourd'hui, nous allons parler de la comète Tchoury. Tchoury, c'est la comète 67P, Tchourymov-Gerasimenko, donc dite Tchoury plus simplement. Tchoury, c'était l'événement de cet automne, en novembre-décembre. On se souvient l'atterrissage du petit Philae que nous avons suivi en direct. Mais en fait, Tchoury, c'est surtout une mission, la mission Rosetta. Ces jours-ci, dans la prestigieuse revue Science, Rosetta nous livre ses premiers résultats. De forme surprenante, en deux lobes et de forte porosité, le noyau de la comète Tchoury révèle une large gamme de caractéristiques grâce aux instruments Miro, Virtis et Osiris de la mission Rosetta de l'ESA, à laquelle participaient notamment des chercheurs CNRS, de l'Observatoire de Paris et de nombreuses universités, avec le soutien du CNES. Publiée le 23 janvier 2015 dans Science, cette étude montre que la comète est riche en matériaux organiques et que les structures géologiques observées en surface résultent principalement de phénomènes d'érosion. Pour nous en parler, nous avons rencontré Jean-Loup Berthaud, directeur de recherche émérite au CNRS. L'instrument Osiris, qui est un imageur, montre une grande variété de structures sur la comète. Jean-Loup Berthaud, est-ce une surprise ?
Oui, pour moi, c'est vraiment une surprise totale. Il y avait déjà eu plusieurs survols de noyaux de comètes, mais c'était très rapide. Les images n'étaient pas d'excellente qualité. Et bon, on voyait qu'il y avait des détails, mais on voyait pas beaucoup, pas de façon aussi extraordinaire que ce qu'on voit là. Le fait d'être très proche de la comète et d'y rester pendant longtemps permet d'accumuler une quantité incroyable de clichés d'excellente qualité. Et bon, il y a une hétérogénéité du noyau de la comète qui est tout à fait surprenante. Je dirais qu'elle est d'autant plus surprenante que si on essaye de voir quelle est la composition du matériau, eh bien, par des méthodes de spectrométrie, par exemple dans le visible, dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet, on s'aperçoit que le matériau et la composition du matériau est partout la même, pratiquement partout la même. Et pourtant, on trouve des structures fantastiques comme des falaises, des plaines recouvertes de neige ou de poussière, des puits. Alors là, c'est une découverte. Des puits, ce sont des formations circulaires d'environ 100 mètres de diamètre, 100 mètres, 200 mètres, avec une profondeur qui est parfois égale au diamètre du puits et dont on ne comprend pas très bien l'origine. Mais il y en a partout sur le noyau de la comète.
Alors on mesure que la quantité de poussière qui s'échappe est de 4 à 6 fois plus importante que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que ça implique, notamment pour les modèles ?
Je dirais que c'est plutôt le rapport entre la quantité de matériaux solides et de matériaux gazeux qui est un peu 4 fois plus important que ce qu'on avait l'habitude de penser. Eh bien, ça a comme conséquence. Alors, il y a une chose qui est très claire, c'est qu'effectivement, ça représente vraiment le noyau parce qu'il se pèle à chaque passage. C'est un peu comme un oignon qui perd sa couche extérieure. Et donc, tout ce qui est parti dans l'espace est effectivement la totalité de ce qu'il y avait dans la couche. Donc, quand on mesure ce facteur 4 de poussière par rapport au gaz, ça représente bien l'intérieur de la comète. Maintenant, ce facteur 4, il a été mesuré, disons, en ce moment, c'est-à-dire à une distance du Soleil assez grande. Est-ce que ce rapport va continuer d'être le même quand on va se rapprocher du Soleil ou est-ce qu'il va revenir à des valeurs qui sont plus classiques que celles qui avaient été estimées d'un rapport, disons, autant de masse d'eau que de masse de poussière. Moi, j'ai l'impression qu'on va continuer à avoir le même genre de rapport, mais ça va être très intéressant de surveiller cette quantité.
Il y avait l'instrument ALICE à bord, un spectro-imageur UV qui a fait des mesures tout près du noyau, en particulier des raies de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Il y a une sorte de grosse surprise dans les résultats ?
Eh bien, on s'attendait à trouver ces éléments, ces raies du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Mais là, on a une très grosse surprise. Par exemple, il y a deux raies de l'hydrogène qui s'appellent Liman alpha, Liman beta, elles auraient dû être dans un rapport, la raie Lyman bêta aurait dû être, disons, 500 fois plus faible que Lyman alpha. Or là, elle est plutôt 10 fois plus faible seulement. Et donc ça veut dire que les processus d'émission lumineuse ultraviolette qu'on s'attendait à voir ne sont pas, sont complètement oblitérés par un autre processus d'émission qu'on a maintenant compris d'ailleurs, mais auquel on n'avait pas pensé avant d'arriver sur la comète. Processus d'émission, c'est simplement des électrons qui tapent sur les molécules d'eau et qui décomposent ces molécules d'eau et provoquent ces émissions d'hydrogène et d'oxygène. Mais en fait, ces électrons, ils viennent eux-mêmes de la comète. Et c'est ça qu'on n'avait pas du tout prédit, c'est que ces électrons, ils sont produits par le fait que les rayons X du Soleil cassent les molécules de vapeur d'eau et leur arrachent un électron avec une énergie assez élevée, 20 électronvolts, qui est suffisante pour que ces électrons, après ça, cognent aussi sur les molécules de vapeur d'eau et donnent les émissions qu'on voit avec Alice.
Quand on vous voit, vous avez l'air très enthousiaste par tous ces résultats, cette moisson de résultats. La science, c'est avoir de la patience pendant 10 ans et obtenir des résultats fantastiques après ?
Disons, dans la recherche spatiale, c'est très souvent comme ça, c'est-à-dire que l'émission compliquée, on est obligé que ça dure longtemps, hein, parce que, par exemple, là, pour faire un rendez-vous avec la comète, on est obligé de faire tout un périple dans le système solaire, de lancer la sonde en 2004, et puis on lui fait faire des tours et des tours dans le système solaire, et en fait, elle va se rapprocher de la comète, et en se mettant près de la comète, eh bien, à ce moment-là, on peut, sans avoir dépensé trop de combustible pour changer la trajectoire, pouvoir accompagner la comète. Maintenant, on peut naviguer autour du noyau de la comète et rester aussi longtemps qu'on le souhaite, jusqu'à épuisement des carburants.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.